LSD, la série documentaire, un podcast France Culture.
Depuis la naissance de ma première fille, qui a maintenant 15 ans, tous les années, on va au Tour de France. Au début, on l'amenait dans une remorque. Et puis, quand elle a grandi et quand ses sœurs sont arrivées, on commençait à faire ça en vélo aussi, avec les filles. Alors, chaque année, on lâche tout, on part en vélo, dans le train. On fait toujours une étape de montagne et on le monte ensemble, en famille. Elles ont fait la planche des Belles-Filles, elles ont fait l'Alpe d'Huez, elles ont fait le Tourmalet, le Galibier. Et elles adorent ça, c'est pas la torture.
Isabelle Best.
Elles sont fières de ce qu'elles ont fait et c'est l'aventure aussi. On fait ça en camping en plus, avec des remorques. Comme ça, les filles, elles sont légères et libres et nous, on fait le travail, on aide les chevaux.
La vélo révolution. Histoire d'un objet en pièces détachées. Une série de Julie et Jean-Philippe Navarre. Quatrième partie, voyageurs tout terrain.
Je passe beaucoup de temps sur mon vélo. Ça laisse pas mal de temps pour réfléchir, mais pas pour s'ennuyer. On découvre des endroits, on fait des rencontres. Parfois il y a des imprévus, des problèmes à résoudre. Et il y a toujours des choses très pratiques et simples qu'il faut sans cesse organiser. Les nécessités sont réduites à l'essentiel. Manger, boire, gérer la fatigue, trouver un bon endroit pour passer la nuit. Les rencontres sont très importantes. Mais en fait, la plupart du temps, on est seul. Il ne faut pas avoir peur de se retrouver avec soi-même. Je m'appelle Alessandra Villa. J'ai 47 ans. Je suis passionnée de voyage à vélo depuis plus de 20 ans.
Je suis Alexandre Scherati, je suis géographe, spécialiste des transports et de la transition écologique et auteur de Prendre la route, une histoire du voyage à vélo. En 1803 apparaît le terme tourisme et il y a l'idée du grand tour, des étudiants anglais qui vont faire un tour d'Europe pour parfaire leurs humanités. Et il y a aussi l'idée du tour en rond, cette idée un petit peu d'inutilité qui va être prise dans la définition du Littré, qui va définir le tourisme comme un voyage motivé par le désœuvrement.
Sur des longues étapes dans des régions un peu monotones, ou sur des longues montées qui durent parfois plusieurs jours, j'écoute de la musique ou la radio s'il y a du réseau. Ou bien j'écoute des podcasts que je télécharge avant le départ. C'est comme ça que j'ai des souvenirs assez bizarres. Par exemple, je revois les grandes plaines d'altitude, la Puna en Argentine, sur fond d'une enquête sur les empoisonneurs de Navalny, comme une bande sonore totalement incongrue. Ou bien dans ma mémoire, il y a une longue piste cyclable qui traverse la Mancha en Espagne. Et elle résonne pour toujours dans ma mémoire d'un podcast sur le 11 septembre. Mais bon, ici en Sicile, c'est sûr qu'on est rarement seul et on voit partout la main de l'homme.
L'histoire des frères René, Aimé, Olivier, elle est particulièrement intéressante. Ils sont étudiants à l'école centrale et ils vont se prendre de passion pour cet objet qui vient à peine d'émerger. Donc ils vont contacter Michaud qui commence à produire ses vélocipèdes. Ils vont décider d'entreprendre un voyage de Paris à Avignon à l'été 1865. Ils font à peu près 100 km par jour. Il faut s'imaginer qu'ils sont sur des vélos qui font une trentaine de kilos, avec une petite lanterne à l'arrière, avec des valises en cuir qui leur permettent de prendre un nécessaire pour pouvoir se changer. Et ils vont accomplir pas loin de 800 km en une semaine. Ils vont décrire un petit peu ce qu'ils voient sur les routes, tester les limites techniques, également les limites de l'être humain.
On ne sait pas trop s'ils ont eu des haltes, même s'ils n'ont pas pris un peu le train, parce que leur parcours suit la ligne de chemin de fer. Mais ils ont un grand mérite. On peut dire que ce sont les pères du cyclotourisme. Alors le cyclotourisme, ça a occupé une grande partie de ma vie, quoi.
Jacques Serret, historien du fait cycliste, retraité.
Vous faisiez des voyages pour les vacances,
etc. Oui, et puis même des brevets de 200, 300, 400, 600 km sans dormir, vous voyez. Je faisais quand même mes 600 km en 27 heures. Et puis, il y a la dimension supérieure qui s'appelle Paris-Brest-Paris, où il est proposé le double. Alors, d'aucuns font les 1200 km sans dormir, dans des temps extraordinaires, 42 heures, des temps équivalents à ceux des professionnels de l'année 1951. Depuis, il n'y en a plus chez les professionnels, mais par contre, chez les randonneurs et les audaxes. Les audaxes, c'est une formule où on roule en groupe, à 22 500 km à l'heure. En randonneur, c'est allure libre.
On a plusieurs pionniers à cette époque-là qui vont marquer l'histoire. Je pense à Adrien de Baroncelli, issu d'une famille assez noble, qui a du temps et de l'argent pour voyager, ce qui est relativement rare à cette époque-là. Ça va être le premier à réellement documenter un voyage qui va paraître dans Le Vélocipède illustré. Dès 1872, il va décrire avec grande précision son voyage dans les Alpes et en Isère. Cette première expérience de récit de voyage, elle va le motiver pour commencer à écrire des guides qui vont recenser les itinéraires de charme, les hôtels, les restaurants ou déjeuner, qui vont être d'une grande utilité pour tous les cyclistes qui vont vouloir entreprendre de tels voyages dans la seconde moitié du 19e siècle.
En ce moment, je me trouve en Sicile, où je n'avais jamais mis le pied avant, malgré le fait que je suis italienne. Quand je suis rentrée de mon dernier voyage entre le Pérou et l'Uruguay, je me suis rendu compte que j'avais été deux fois dans le Salar de Uyuni, en Bolivie, mais je n'avais jamais été en Sicile. Et donc, me voilà avec mes bagages et mon vélo. Je me trouve sur une petite route qui relie Nantes à Syracuse. Syracuse va être l'un des hauts lieux de ce voyage. Il y a tant de choses à voir. J'ai hâte d'y être. Autour de moi, il n'y a que des citronniers, des oliviers. C'est assez tranquille, même si on croise toujours quelqu'un en Sicile, un agriculteur dans son champ. Il y a beaucoup de monde qui vient chercher des herbes ou des plantes pour la cuisine traditionnelle sicilienne, qui en fait un grand usage.
Albert Lomaillet, c'est un très grand voyageur. Il va parcourir de nombreuses régions de France et d'Europe. Il va également parcourir les colonies. Et il va parcourir plus de 200 000 km en l'espace de 16 ans. Soit seul, soit avec sa femme. Il va être un des membres fondateurs des premiers clubs cyclotouristes français. Le cyclotourisme peut à la fois être une pratique solitaire, mais à cette époque-là, il est beaucoup une pratique en groupe. Il y a beaucoup de médecins, d'ingénieurs, plutôt des catégories supérieures, qui vont se retrouver le dimanche pour faire ce qu'ils appellent des caravanes cyclistes ou des pelotons cyclistes et qui vont aller d'une ville à l'autre partout en France pour défricher ces sentiers et ces routes qui sont totalement nouvelles pour eux.
De l'autre côté de la Manche, on voyage également et parfois en grand bille. Alors il y a un personnage assez impressionnant, Thomas Stevens.
C'est un Britannique, c'est un fermier. Et avec sa famille, il va migrer aux États-Unis en quête d'une vie nouvelle, comme de nombreux Britanniques à l'époque. Il va exercer différents métiers, il va travailler dans une ferme, il va travailler dans le chemin de fer. Et il cherche un petit peu à exister, à se faire un nom. Et il va tomber sur un grand bille autour de San Francisco. Et il va se mettre en tête l'idée de faire le tour du monde avec cet objet. Je crois que les premières journées, il tombe 200 fois. C'est pour montrer à quel point c'est un objet qui peut être difficile à manier et dangereux. À partir de San Francisco, il va commencer ce tour du monde. Donc on est en 1884. Contrairement à beaucoup de voyageurs de l'époque, il n'est pas issu d'un milieu bourgeois. Il va devoir se trouver des ressources pour pouvoir continuer à voyager. Il a cette idée-là de vendre ses récits à différents magazines et différents journaux qui paraissent à l'époque, notamment Outing, qui est une revue de tourisme, qui va finir par le sponsoriser.
3 ans de voyage en Europe, en Extrême-Orient, il va faire 22 000 km sur un grand bille. Il paraît incroyable.
Les revues d'aventure se vendent très très bien. On va avoir aussi les premiers photographes. On a l'exemple de Annie Londonderry, la première femme qui, 10 ans après Thomas Stevens, en 1894, va entreprendre elle aussi sur une bicyclette le tour du monde.
Vous avez croisé sa route ?
Oui, je pense qu'il y avait une sorte de pari, une discussion dans le journal, est-ce que les femmes peuvent vraiment rouler ? Mais elle ne faisait pas vraiment du vélo. Alors, je pense qu'elle a dû apprendre à faire du vélo. C'était un peu désastreux au début. Elle est allée dans un sens et puis c'était trop dur. Elle est rentrée et puis elle a recommencé dans l'autre sens où elle a mal calculé le saison parce qu'avec la météo, c'était pas terrible. Et puis, je pense qu'elle a fait pas mal du trajet sur un bateau. parce qu'il y a différentes façons de contourner le globe. Mais elle a réussi à le faire et je pense qu'elle était un peu inspirée par l'histoire de Phileas Fogg. Et puis elle a bien su comment médiatiser ce qu'elle faisait. Elle a même changé son nom parce que son vrai nom, je pense qu'elle était d'origine russe juive, c'était Kopchovsky. Elle a pris le nom de son sponsor, Londonderry. Je pense beaucoup à ces gens qui utilisent les médias sociaux maintenant pour raconter leur histoire.
Je sors de Catane en direction de Taormine. Sortir d'une grande ville n'est pas toujours aisé, mais là, je trouve une piste cyclable. Je roule avec l'Etna en face de moi. Il est encore bien enneigé. La piste cyclable longe la côte qui est faite de rochers tout noirs. C'est la lave de l'Etna, des coulées qui se sont succédées au fil des ans et qui sont arrivées jusqu'à la mer.
Annie Londonderry vient d'une famille immigrée de Lettonie. Elle a 3 enfants, elle travaille dans les encarts publicitaires aux États-Unis. Une femme seule autour du monde. À la fin du 19e siècle, on a du mal à s'imaginer. Quand elle passe à Marseille, il y a 10 000 personnes qui l'acclament.
Elle part en jupe victorienne avec chapeau à fleurs. Et puis, à un moment donné, quand même, elle va passer au bloomer. Sur quoi elle voyage ?
Il faut s'imaginer qu'elle voyage sur quelque chose qui est l'équivalent d'un Vélib, mais qui roule moins bien et qu'elle va monter des côtes avec ça, qu'elle va traverser des montagnes. Voilà. C'est un vrai exploit à la fois physique, un exploit aussi économique. Son projet étant de prouver au monde qu'une femme seule est capable de subvenir à ses besoins pendant son voyage. Plusieurs personnes aux États-Unis vont prendre les paris. Elle va décréter qu'elle rentrera avec 5000 dollars en poche. Et elle réussit à le faire. Des femmes libres comme ça font peur à des hommes qui ont peur d'être privés de leur place dans la société, donc elle va être moquée à plusieurs reprises. On dit qu'elle appartient à un troisième genre, qu'elle n'est ni une femme ni un homme, qu'elle appartient au sexe auvergnat. Il y a tout un tas de fantasmes autour de cette femme Annie Londonderry, et malgré ça, elle va en 2 ans boucler son tour du monde en partant de Boston et en revenant à Boston.
On découvre beaucoup en voyageant à vélo. Par exemple, la nourriture. Ici en Sicile, c'est une découverte heureuse à tous les coins de rue. Mais même dans des régions moins fastes d'un point de vue gastronomique, la nourriture est un aspect important de la découverte. Mais les repas qu'on apprécie le plus, ceux qui ont le goût le meilleur, sont ceux qui sortent des sacoches à la fin d'une longue journée à vélo. Parfois, ce sont des portions assez maigres, parfois on s'est réjoui de découvrir un bout de pain oublié au fond des bagages. Et là, c'est une joie, c'est tout de suite un délice. Ce n'est ni le fruit d'un sacrifice ou d'une renonciation, et ce n'est pas du masochisme. C'est une occasion précieuse de remettre de l'ordre dans nos priorités dans la vie. La faim qu'on ressent parfois, elle est vraie, mais elle est bénéfique. C'est un cadeau.
Par hasard, j'ai découvert l'histoire d'une femme qui s'appelait Mrs. Nichols en Australie.
Isabelle Best, journaliste.
Elle était dans le journal parce qu'elle avait fait, dans l'année 1898, un très long trajet entre 2 villes et c'était vraiment impressionnant. C'était un peu l'ultra-distance entre Sydney et Melbourne. C'était un peu comme l'ODAC, c'était l'idée de faire une grande randonnée. En anglais, on appelle ça « place-to-place record ». Et j'ai découvert que c'était la sœur d'un Anglais qui s'appelait F.T. Bidlake, qui a vraiment inventé les courses de contre-la-montre. Mais lui, il avait des idées très négatives sur les femmes qui faisaient du vélo. Alors c'était formidable de trouver cette histoire qu'il avait une sœur qui faisait des records. Et j'imagine, pas avec des jupes. Parce que lui, il disait que c'était scandaleux, les femmes qui faisaient du vélo dans les culottes. C'était très important qu'elles restaient élégantes dans leurs jupes.
Je m'appelle Nathalie Bayon, j'ai 32 ans et je suis installée en Isère depuis 3 ans maintenant. J'ai une formation d'ingénieur, mais depuis un an, je me suis mise à mon compte pour vivre de ma passion qui est le vélo. J'ai toujours été attirée par le voyage, mais la logistique du voyage à vélo me semblait compliquée, donc j'osais pas me lancer seule. En 2016, je rencontre Romuald. 2 ans plus tard, on se lance le défi de faire le tour de la Nouvelle-Zélande à vélo. Et lors de notre séjour, alors qu'on progresse tranquillement et qu'on voyage bien trop équipé, comme la plupart des débutants, on croise des cyclistes qui traversent l'île avec seulement des petites sacoches en 2 semaines. Et à ce moment-là, je découvre le monde du cyclisme ultra, ou cyclisme longue distance. Rentrée en France, je découvre qu'il y a un Audax de 1000 km, la Borders of Belgium. Je m'achète une sacoche, un nouveau vélo et je me lance. Je demande conseil aux personnes directement lors de la course, comment ils font pour manger, dormir. Je m'étais évidemment beaucoup renseignée aussi avant, j'avais lu pas mal sur le sujet, mais j'ai aussi appris sur le tas pendant l'épreuve. L'Audax, c'est un peu plus l'esprit vraiment randonnée. Les gens s'arrêtent beaucoup pour prendre le temps de manger au restaurant. C'est un peu moins la performance, même si ça reste déjà des grosses distances à faire dans un certain temps limite.
Au milieu des années 1880, on va assister à l'émergence des clubs et des fédérations, et notamment au Royaume-Uni, où le Bicycle Touring Club, qui devient le Cyclist Touring Club, regroupe plusieurs associations qui vont commencer à militer pour plus de place pour le vélo.
Alexandre Skirati, géographe, spécialiste des mobilités.
Ils vont mettre en place de la signalisation, éditer des revues, des cartes. Ils vont essayer de faciliter la vie à tous les cyclistes qui souhaitent se lancer dans une entreprise de voyage. Et quelques années plus tard, en France, le Touring Club de France va apparaître. Donc c'est en 1890, sur le même modèle du club anglais. Il va regrouper des ingénieurs, des politiques, qui vont se demander comment on peut améliorer l'expérience cycliste touristique en France et comment, au-delà de ça, on peut développer le tourisme. Ce Touring Club de France, on va dire plus tard qu'il est l'antichambre du ministère du Tourisme, qui n'existe pas encore. Il va promouvoir l'amélioration de l'hébergement, notamment éditer des guides à destination des aubergistes pour qu'ils proposent une meilleure expérience aux touristes. Il va mettre en place des systèmes qui permettent de reconnaître les restaurants gastronomiques et les restaurants qui travaillent dans des bonnes conditions d'hygiène, montrer au territoire qu'il y a une vraie opportunité dans le développement du tourisme, à un moment donné où les révolutions agricoles font que certaines campagnes se vident de leur population. Le Touring Club de France, il va aussi être à l'origine des appellations d'origine, qui vont être une manière de promouvoir ces produits gastronomiques locaux. Il aura une influence assez importante sur l'aménagement du territoire au début du XXe siècle.
Après, le Touring Club de France observe que le tourisme ne se fait pas essentiellement à vélo, mais il se fait en voiture aussi. C'est à ce moment-là qu'il y a bascule, et que le Touring Club de France ne devient plus exclusivement le représentant des touristes cyclistes. Donc, est fondée la Fédération française des sociétés de cyclotourisme.
Il va y avoir un cyclotourisme plutôt solitaire, où on ne mesure pas forcément les performances. Et ce qu'on va retrouver dans les clubs, c'est plutôt du cyclotourisme à mi-chemin entre le voyage et la vraie pratique sportive. C'est-à-dire que certains clubs, et la majorité des clubs, ils vont chronométrer leurs excursions, tenter de battre des records, ils vont éventuellement tenter de se battre contre d'autres clubs cyclotouristes.
Il y a une espèce de guerre fratricide entre les cyclistes professionnels et les partisans du voyage sur route.
Le cyclotourisme est plutôt pratiqué par des classes assez aisées, alors que le cyclisme de course est vraiment pratiqué par des ouvriers, des paysans, que certains bourgeois vont appeler les mangeurs de cailloux, parce qu'ils sont recroquevillés sur leur machine et ils ne voient défiler que les cailloux en dessous de leurs pneus. D'un côté, on a un cyclisme plutôt élégant et de l'autre côté, un cyclisme un peu sale, un peu populaire. Il va y avoir une apogée dans ce conflit-là, c'est que finalement, les bourgeois vont aussi participer à certaines courses, ils vont être chronométrés de manière différente et on va avoir une note sportive, mais on va aussi donner dans les courses cyclistes une note artistique. Et souvent, cette note artistique, c'est plutôt les bourgeois et les cyclotouristes qui vont l'obtenir.
Paul de Vivy, qui se fait appeler Vélocio, il a fondé le club des cyclistes stéphanois en 1881. Et donc lui, il va vraiment militer d'abord, ça va être un entrepreneur qui va militer pour importer une industrie du cycle en France et qui va devenir plus tard le père fondateur du cyclotourisme.
Il est négociant en ruban, donc à Saint-Étienne, qui est une ville rubanière. Et il s'avère que l'autre grande ville rubanière en Europe, c'est Coventry. Ils ont également développé toute une industrie autour de la construction de bicyclettes. Et donc c'est comme ça que les innovations produites en Angleterre vont se retrouver à Saint-Étienne.
Alors Velocio, il est considéré comme le pape des cyclotouristes parce qu'il a contribué à développer le changement de vitesse. Il se moquait un peu des coureurs qui montaient tant bien que mal, voire à pied, les grands cols, alors que lui, il est monté à vélo, alors qu'il avait un âge parfois avancé. Velocio est un personnage mythique et il a lancé la revue Le Cycliste en 1887. Alors j'ai le plaisir d'avoir la collection complète, ce qui n'est pas courant quand même.
Dictionnaire du dopage,
bah oui. Ah oui, alors sur le dopage, c'est tout un rayon, là. J'en ai peut-être 50 livres sur le dopage. Je continue à m'interroger sur certaines performances actuelles dont on parle peu.
On pédale plusieurs heures par jour, 5, 6, 10 parfois. Personnellement, je n'ai aucune velléité sportive. Je ne cherche pas du tout la performance. Le vélo, c'est juste un moyen de transport. Mais bon, cela n'empêche, on bouge pas mal. Et puis, même au-delà du vélo, on est toujours en train de faire quelque chose. Monter la tente, préparer à manger, réparer quelque chose, de faire le campement, faire les courses. Ça n'arrête pas. Parfois, je prends des jours de repos uniquement pour me reposer. Aux États-Unis, un moment que j'appréciais tout particulièrement, c'était d'aller à la laverie automatique. Là, on est obligé de rester assis à attendre, dans un endroit calme et à l'abri. Tout le contraire de la routine quotidienne.
Velocio, c'est également un poète, un philosophe. Évidemment, il fait beaucoup de vélo, 200 ou 300 km en une seule traite, sans grand problème. Et ça va être une des premières figures à théoriser ce que deviendra le cyclotourisme, notamment dans son rapport à la lenteur, dans son rapport au corps, dans son rapport à la nature. C'est un végétarien convaincu et il va essayer de convaincre autour de lui des bien-fondés du végétarisme.
Il prône aussi la sèse, enfin il y a quelque chose autour de la frugalité qu'il porte même dans sa manière de vivre.
Il est porteur d'une philosophie qui est originaire d'Allemagne, qui s'appelle le naturisme, qui est une éthique de vie. Pour l'instant, on n'est pas au naturisme complètement nu, mais il pédale, par exemple, torse nu. Cette philosophie naturiste, elle promeut un contact presque poétique à la nature. Et derrière, il va mobiliser des milliers de personnes en France, notamment à travers sa revue Le Cycliste, pour promouvoir cette éthique du cyclotourisme en opposition frontale avec la course cycliste qui est basée sur le dépassement de soi, qui est basée sur la compétition et qui n'est pas basée sur cette harmonie tant voulue avec la nature.
Retrouver la mer, c'est une grande émotion. L'eau est d'un bleu intense. C'est aveuglant. Le vent est assez fort. Mais depuis mon départ, il me pousse vers l'est.
Alessandra Villa.
C'est vraiment une grande chance. Non seulement cela veut dire que je vais plus vite, presque sans effort, mais que j'entends les voitures arriver avec beaucoup d'avance. Et surtout, que je roule dans le silence. Rouler le vent de face peut être éprouvant. Non seulement pour l'énergie qu'on doit y mettre pour avancer, mais parce qu'on roule dans un vacarme infernal. Parfois pendant des jours. Ça empêche même de penser. Cela peut tout changer à notre journée. Mais de l'autre côté, on fait presque corps avec ce qui nous entoure. On passe des journées entières, des semaines, dans des paysages qu'on traverserait en quelques heures en voiture, séparés, isolés de notre environnement. Pour mon premier voyage aux États-Unis, je voulais voir les parcs nationaux, dans les montagnes rocheuses. Yellowstone, le Grand Canyon, le Bryce Canyon, Arches... Avec mon mari, on a rencontré pas beaucoup d'autres cyclistes. Tous les autres touristes étaient en camping-car ou en voiture. Le tour qui nous a pris, à nous, un mois et demi à vélo, eux, ils le faisaient en 10 jours. C'est clair que c'est pas le même voyage. À vélo, on roule en prise directe avec le paysage. Ça veut dire que non seulement on a plus de temps pour observer, pour s'imprégner de ce que l'on voit, mais qu'on écoute les bruits, on sent les parfums. Il y a quelques mois, j'étais en Uruguay et j'ai 2 souvenirs très forts de ce voyage. Le premier, c'est le chant des oiseaux, partout, tout le temps, même sur l'autoroute. Et le second, c'est de longer le Rio de la Plata. Quand on part de Montevideo, à la sortie du delta, le fleuve est presque noir et ça sent très très fort la terre, presque le marais. Puis au fil des jours, les eaux changent de couleur, se font vertes et puis bleues. Et l'odeur aussi change. Elle devient de plus en plus saline jusqu'à la frontière brésilienne, où désormais c'est l'océan.
Les cyclotouristes sont les premiers à aller en montagne pour une bonne raison, c'est que les cyclistes sportifs n'ont pas de dérailleur et ils ne souhaitent pas s'en doter. Et sans dérailleur, il est difficile d'avoir accès aux principaux cols de montagne, aux Tourmalets, aux Galibiers et à ce type de cols, et les premiers à les franchir vont être des cyclotouristes. Il y a une autre pratique qui est promue à l'époque, c'est le cyclisme muletier. Alors ça, c'est très drôle. Les routes de cols dans les Alpes ou dans les Pyrénées sont pas encore tout à fait aménagées. Les seules routes aménagées sont des routes à objectif militaire. Et pour passer les cols les plus importants, on est obligé de traverser des sentiers qui sont pas du tout propices à la pratique de la bicyclette. L'idée du cyclisme muletier, c'est d'aller le plus haut possible jusqu'à ce que la route s'arrête, de charger ses vélos sur des mules directement, de passer les cols à dos de mule et de reprendre à bicyclette de l'autre côté du col.
Vicky Carmenot, je suis québécoise en France. J'ai fondé les Girls on Wheels il y a à peu près 9 ans et je suis aussi fondatrice du café vélo Pista au pied du Mont Ventoux. Quand j'ai rencontré mon copain Jean-Sébastien qui lui roulait Campignon Fixe aussi, on s'est dit, en ayant chacun un pignon fixe, ben, on était sur le même rythme. Et on a commencé, moi qui faisais déjà des longues distances, donc qui continuait en pignon fixe, et c'est comme ça qu'on a évolué. Et puis maintenant, on fait du backpacking, on fait des cols. Pour nous, c'est vraiment du bonheur. Quand tu pédales, tu suis le rythme de ton vélo. En fait, tes jambes s'arrêtent jamais. Tu dois choisir le bon ratio, donc forcément aussi les bonnes routes, parce qu'il y a des routes plus dangereuses que d'autres. Ça sent que la descente, elle est beaucoup plus dure, en fait, à manœuvrer que la montée, au final.
Ce que font les cyclotouristes qui commencent à gravir les premières montagnes, c'est de découper un fagot de bois et de s'en servir en fait comme frein directement au contact de la route. Ça va leur permettre de descendre un petit peu moins vite et d'éviter de se faire emballer par la vitesse dans les descentes des principaux cols.
L'année dernière, on invitait les gens à venir monter le Ventoux en pignon fixe. Et l'idée, c'était de prouver que tout le monde, en fait, pouvait faire du pignon fixe, pouvait faire des cols, que ça n'était pas qu'urbain. Il y a cet effort, en fait, quand tu montes un col en pignon fixe, ou, qui est complètement différent du vélo à vitesse. Moi, je peux te dire, c'est comme si à un moment, tu es dans une douleur, mais qui devient presque une trace, en fin de compte. Tu es dans toi, tu es dans tes jambes, tu dois y aller, sinon tu t'arrêtes. Donc voilà, et puis en haut, quand tu arrives, ben là, du coup, c'est le frisson, parce que tu es trop content d'être arrivé en haut, surtout d'un col pareil. C'est pas tout le monde qui connaît ce type de vélo, surtout si on n'a jamais fait de la piste. Quand nous, on roule comme ça, souvent, c'est les anciens qui viennent nous voir et qui nous interpellent. Et là, ils nous racontent que eux, par exemple, justement, leur entraînement hivernal s'effectuait en pignon fixe à l'époque. Donc, c'était surtout plutôt du plat. Mais voilà, et après, bien sûr, ça rappelle aussi le début du Tour de France où les gens roulaient qu'en pignon fixe. C'est le truc à l'ancienne. Et je tacle quelques puristes comme ça qui restent.
C'est vrai qu'on a oublié que cette autorisation du dérailleur sur le Tour de France, elle n'arrive qu'en 1937. Ça limite le cyclisme professionnel par rapport au cyclotouriste. Vélocio, on peut dire aussi, diffuse cette idée du camping et du voyage en bivouac.
Pour lui, c'est aussi une manière pour les ouvriers d'aller au grand air, de découvrir des choses qu'ils n'ont jamais connues. Ça vaut également pour les femmes. Les femmes sont tout à fait acceptées et sont même invitées à participer avec les hommes aux randonnées cyclotouristes, et il y a plusieurs figures féminines qui vont émerger en ce début de XXe siècle. Je pense notamment à Marthe Hess, qui va parcourir de grandes distances, qui va se battre contre les hommes en franchissant le Tourmalet lors de courses cyclistes également, pour prouver finalement que les femmes ont leur place là-dedans.
C'est les premiers ultra-rides des années 30.
En Australie, ça devenait une sorte de compétition, un phénomène avec des sponsors, des marques de vélo qui sponsorisaient ces femmes et les journaux qui étaient passionnés par leur exploit.
Isabelle Best.
Par exemple, il y avait l'histoire de Bobby Samuel. Quand on regarde en ligne, on peut trouver des photos d'elle qui sont vraiment mignonnes parce qu'elle était petite et elle avait une peluche sur son vélo. Une peluche d'un koala, on dit koala en français, le petit ourson. Et elle aussi, elle s'est dit, bon, je vais montrer à tout le monde que c'est ce qu'on peut faire. Elle a eu toutes sortes d'accidents, il y avait un kangourou qui a creusé son chemin, il y avait toutes sortes d'aventures, il y avait de la boue, du vent, la pluie, il faisait froid. Et c'était vraiment courageux, héroïque, c'est ce que ces femmes faisaient. Et les Australiens, ils étaient vraiment beaucoup plus modernes, ils étaient vraiment derrière ces femmes.
Donc l'ultra-distance à vélo, c'est des courses de bikepacking sur plusieurs jours et en non-stop. Il faut gérer les temps de pause, le sommeil, la nourriture.
Nathalie Bayon.
Pour ma part, je me suis spécialisée dans les courses en autonomie de moins de 1500 km sur route. J'ai remporté une dizaine de courses depuis 2019, dont la Race Across France, la Biking Man Corsica et Euskadi, la Desertus Bikus, et je détiens le record de distance féminin sur les 24 heures du Mans. Cette année, je veux me lancer de nouveaux défis, donc je change un petit peu de format. Je vais tenter de battre le Guinness record de la traversée d'Europe du sud au nord. C'est 6500 km entre Tarifa en Espagne et le Cap Nord en Norvège. Le record actuel est détenu par un Britannique, Ian Walker, qui l'a réalisé en 16 jours, 20 heures et 59 minutes. J'aime la liberté que cela procure de voyager seule. J'avance à mon rythme, je choisis mon itinéraire et mes pauses. Une femme seule à vélo, cela intrigue. Lors de mon dernier voyage en Grèce, beaucoup de personnes sont venues me parler. Les questions qui revenaient souvent étaient d'où je viens, où je vais, et si je n'ai pas peur des loups et des ours, là où je campe.
Alors vous me parliez aussi de Lily Hirst, qui est une figure très très intéressante aussi, qui a la croisée également des Audax, du cyclotourisme et de la course, qui touchait un peu à tout, la fille du fabricant de cycles, René Hirst.
Avant, il avait travaillé avec Breguet, les avions. C'était un ingénieur qui était vraiment passionné du vélo. Alors l'histoire de Lily Hirst, c'est un peu l'histoire du vélo français. Alors ses parents, tout leur entourage, leurs amis, c'était des cyclistes. Alors c'était les années 30, le vélo, c'était les vacances. Et en même temps, il y avait, c'était un moment héroïque dans l'histoire du cyclisme professionnel en France. C'était les grands champions de l'époque, comme André Leduc et les frères Pellissier. C'était le moment où tout le monde était vraiment passionné par le vélo. Alors son père, il faisait des très très beaux vélos sur mesure. Lily, elle a appris à faire du vélo avec ses parents. Tous les dimanches, ils sortaient, ils faisaient des grandes sorties. À l'époque, il y avait beaucoup de femmes qui faisaient du vélo. C'était pas vraiment des compétitions, mais je pense que les gens, ils aiment les challenges. Alors, il y avait des sortes de compétitions, des randonnées, et Lily, elle était brillante.
J'ai participé à Dead Ends and Dolci, une course d'environ 500 km où il faut relier 6 cols dans le Tessin en Suisse et où l'on est récompensé par un gâteau au sommet. Je termine la course vers 6h du matin sans avoir dormi. Lorsque j'arrive à l'arrivée au magnifique château de Montebello, à Bellinzona, je fais d'abord une bonne sieste, je mange une bonne pizza. Là, la course en Suisse étant assez courte, je l'ai terminée en 24 heures, donc je trouvais ça dommage de juste faire l'aller-retour. Du coup, je décide aussi de rentrer à vélo. J'ai décidé de passer par l'Italie cette fois-ci, que je connais moins bien. Je pars de Bellinzona. Je passe à côté du lac Majeur où je m'arrête de prendre quelques photos. C'est magnifique. J'emprunte ensuite une route en balcon dans des gorges. Il fait super beau. Je profite bien. Je pense déjà à la glace que je vais manger en arrivant en Italie. J'entame une belle descente jusqu'à Domodossola. Malheureusement, j'arrive un peu tard. La glace sera pas pour aujourd'hui. Donc je cherche un campement. J'emprunte du coup une petite route. Et je trouve un endroit calme entre une rivière et la piste cyclable. Je me fais mon petit repas lyophilisé, vu que j'ai rien trouvé d'autre. Et je me couche. Et j'ai l'impression que la ville prend vie finalement avec la nuit. Mais je suis tellement épuisée que ça m'empêche pas de m'endormir très rapidement quand même. Le lendemain, quand je me réveille, il y a pas mal de brume. J'avais regardé la météo, ils annonçaient pas mal de pluie aussi. Donc je me suis dit que j'allais avancer et m'arrêter prendre un petit déjeuner quand il commencerait à pleuvoir, pour rouler un maximum au sec.
Alors ça, c'est Lily, en tandem. Ils portaient les mêmes maillots. Ça, c'est une photo qui est vraiment de l'époque. Alors, parce que ça venait du cyclisme amateur, on ne pouvait pas s'habiller comme des professionnels. Vous voyez les shorts, ce n'est pas des shorts en laine. Alors là, on voit un couple avec des chemises, avec les carreaux qui sont les mêmes, le même short. Ce sont des randonneurs, ils ont leur petite sacoche, on appelle ça en français, sur le roue. Il y avait beaucoup de gens qui faisaient ça le week-end. Et Lily Hirst, elle était dominante, elle avait beaucoup de partenaires en tandem et ils gagnaient tout. Il y avait une course très connue qui s'appelait la polymultipliée de Chanteloup à l'ouest de Paris. Là, ça monte, c'est sur les boucles de la Seine. C'était une course qui était créée, je pense, dans les années 30 pour mettre en valeur la technologie du vélo.
Ma passion pour le vélo, elle est très classique. Mes parents faisaient du vélo, mais faisaient beaucoup de vélo. C'était des cyclotouristes émérites. Mon père a fait de Paris-Brest-Paris, le club des 100 cols, tous les Audax possibles et imaginables. Et il a emmené ma maman, chacun son vélo au début, puis ensuite en tandem. Et forcément, quand j'étais môme, on était obligé de suivre.
Jean-Louis Fréchin, designer.
Et je m'ennuyais tellement que dans les pelotons, je regardais les vélos. Et en fait, les vélos m'intéressaient plus que les promenades. Lorsque j'ai fait mon diplôme d'école de design, je sentais quand même que j'avais un savoir en moi qui était là grâce à mes parents. Donc j'ai fait un diplôme sur le vélo. Ce diplôme était en 90, on était déjà, on va dire, à la fin de la mort de l'industrie du cycle en France. Et je voulais, par le design, essayer de proposer quelque chose de nouveau. Donc on a fait un vélo révolutionnaire en plastique. Je roule beaucoup en banlieue parisienne, à la trace des anciennes usines, d'endroits improbables, des trésors de la banlieue. Alors soit des trésors de l'architecture des années 50 qu'on méprise, mais il y a certains espaces qui sont très très beaux, soit des routes, soit les zones frontières entre la ville et la campagne. Par exemple, le Val d'Oise, quelle horreur, mon Dieu, c'est le plus beau département autour de Paris, largement. Le Vexin, c'est à peu près ce qu'il y a de plus. Alors ça monte, c'est dur, hein, vers Marine et au-delà. Les rives de la Seine, le Pays de France qui est un peu plus plat, mais là c'est le vent, donc on a un petit côté Paris-Roubaix. La région parisienne, c'est assez extraordinaire. Et puis quand je vais plus loin, j'essaye toujours d'avoir un vélo pour rouler. Mais je m'intéresse plus aux machines qu'à l'usage. Je m'intéresse plus à l'instrument qu'à la symphonie qu'on peut faire avec.
Est-ce que vous pourriez nous parler de votre vélo?
Oui. Alors, mon rêve, c'était d'avoir un vélo René Hirst. C'était l'équivalent de 10 000 euros. Donc, il fallait que j'aille voir des concurrents proches et moins chers. Alors, il y avait des cyclos Routens à Grenoble. Alors, j'ai eu un vélo de cyclotouriste construit par Routens. Après, je me suis dit, je peux grimper un petit échelon comme ça. Je vais aller chez Singer. Alex Singer, c'est à Levallois. C'est un constructeur qui a toujours pignon sur rue et qui construit toujours quelques dizaines de vélos par an, pas plus, hein, pas plus. On les appelle tout simplement les couturiers de la bicyclette, quoi. Ce qui implique un domaine de luxe. Par exemple, j'ai fait un tour d'Israël avec la traversée du désert du Negev. J'étais sur un vélo Singer, voilà.
La montée à Bielmonté est assez longue et raide, ça fait 10 km à 8,5%, je crois. Je commence à avoir à nouveau une petite faim, donc je m'arrête à... Quand je trouve un restaurant dans une épingle, je commande un burger avec mozzarella di bufala, un truc bien sympa. Bon, la carte est en italien, donc en dessert, je pensais prendre une petite crème au chocolat. Finalement, c'est une énorme crêpe bien remplie en chocolat aussi. Et voilà, je reprends la montée avec pas mal de force, mais un peu lourde aussi.
Après la Seconde Guerre mondiale, le cyclotourisme va être pris en sandwich entre le cyclisme de compétition et l'émergence de l'automobile populaire.
Alexandre Skirati, auteur de Prendre la route.
Les cyclotouristes qui vont continuer à pratiquer sont de grands passionnés, des gens qui vont dédier leur vie à ça et qui, techniquement, vont mettre au point des machines très modernes avec de nouveaux types d'alliages, de métaux, d'équipements, qui vont faire de la randonneuse une bicyclette à la pointe de la technologie. Donc on a plusieurs marques qui émergent à cette époque-là. Voilà, pas mal de matériel un petit peu nouveau, plus solide, plus léger, qui vont préfigurer les innovations dans le domaine du cyclisme de manière générale, que ce soit du vélo urbain ou du cyclisme sportif.
Le vélo utilitaire disparaissait de la Seine. Donc il ne restait plus que le domaine de la compétition, le domaine du cyclotourisme actif grandement ou modérément. Là, c'est l'époque moderne où le vélo est confronté à, non seulement à l'automobile, mais à l'avion. Ce qui fait que il m'est arrivé, par exemple, d'aller faire du vélo au Colorado. Il y a des cols à 3000, 3500, 4000 mètres qui en été n'ont pas de neige. J'ai pas mal voyagé, ce qui m'a valu d'écrire un petit ouvrage qui s'appelle « Un demi-siècle de vélo à travers le monde ». Moi, mon souci, c'était de gagner ma vie quand même, de pouvoir faire des économies, en ne quittant pas mon emploi qui était quand même pas mauvais. J'ai traversé, par exemple, on parlait de Paris-Brest-Paris tout à l'heure, mais Paris-Brest-Paris est l'émanation d'une course anglaise qui s'appelait Lansen, John O'Groats. Lansen, c'est le sud de la Cornouaille, et John O'Groats, c'est le nord de l'Écosse, end-to-end. Et au plus court, ça fait 1400. Moi, je suis allé faire ça avec des amis, on a mis une semaine, alors que le fameux Mills, qui a gagné Bordeaux-Paris, avait mis 3-4 jours pour le faire en grand bi, avant 1890.
Il prenait déjà un peu de produits pour...
Oui, c'est ce que lui-même Théron a dit quand il vomissait un petit peu dans son Paris-Basse-Paris. J'ai pris un peu trop de caféine.
Je trouve que voyager à vélo, c'est quelque chose qui responsabilise le voyageur. Il y a un prix à payer pour se déplacer et ce prix, on le paye cash. C'est le prix de l'effort. C'est honnête, je trouve. Cela responsabilise le cyclotouriste. Il sait qu'il y a des limites. Les limites de ses forces, les limites de temps, de distance, mais aussi de logistique. Il faut transporter l'eau, la nourriture. On choisit avec grande attention ce que l'on prend avec nous, ce qu'on achète le long de la route. Ah, ça vous guérit totalement de l'achat compulsif.
Juste après la fin de la Seconde Guerre mondiale, on voit l'émergence d'une pratique relativement nouvelle, qui va grandement se populariser, c'est la randonnée. Les sentiers GR, notamment, datent de 1947, et c'est une manière touristique qui est beaucoup plus fongible dans l'automobile, alors que la pratique du cyclotourisme l'est beaucoup moins. Il va être, ce cyclotourisme, l'apanage de gens vraiment très passionnés, beaucoup plus réduits jusque dans les années 70. Et dans les années 70, il va y avoir de nouveaux guides qui vont apparaître, de guides touristiques, le Lonely Planet, le Routard, pour ne pas les citer, qui vont promouvoir une manière alternative de voyager en dehors des sentiers battus. Et à travers cette pratique alternative, on va voir la renaissance d'un certain cyclotourisme qui va derrière lui porter un message politique, qu'on retrouve chez Vélosur d'ailleurs, d'un rapport particulier à la nature, à l'écologie. Dans les années qui suivent les premières crises pétrolières, on va avoir de nombreux cyclistes qui vont voyager pour l'écologie, pour ce rapprochement avec la nature. C'est toute cette nouvelle génération de voyageurs qui veut voyager avec du sens qui apparaît à partir de cette époque-là.
Je me demande parfois si le cyclotourisme est un tourisme écologique. Si je vais à l'autre bout du monde en avion, et là je me déplace à vélo de façon très écologique et responsable, bon, il y a évidemment une grosse contradiction. Après, on peut partir à vélo de chez soi, faire du tourisme de proximité, ou prendre le train ou le bateau. Et en règle générale, pour être écologique, il faut avoir beaucoup de temps. Et souvent, il faut renoncer à quelque chose. C'est pas un défaut forcément, cela fait partie de l'acceptation saine, bonne, de nos limites.
Jean-Luc Marchal, à quel âge vous avez commencé à voyager à vélo ?
Très tôt, parce que avec un copain, c'était Saint-Jacques-de-Compostelle.
À quel âge ?
Je sais pas, j'étais au lycée encore.
Vous avez commencé avec vos enfants à traverser le Québec ?
Toujours beaucoup seul aussi. J'ai traversé l'Inde par exemple, et je dis toujours, c'est que la première fois que j'ai traversé Delhi, il faut quasiment la journée, enfin la nuit en vélo, c'est difficile, c'est compliqué, on traversait des éléphants, etc. Mais vraiment, on est arrivé. Par contre, j'ai refait le même trajet 10 ans après, c'était l'enfer. Une pollution qu'on sentait à tout moment. Aussi, un autre sujet, j'avais traversé le Tibet en vélo, parce que c'était des moyens très forts d'avoir des seuls moments où on prend des rapports avec la population. J'ai fait d'autres voyages, par exemple j'ai descendu le Danube en vélo, donc j'ai fait Strasbourg-Varna, qui est en Bulgarie. En Slovaquie, ils s'y mettaient. En Hongrie, également, ils s'y mettaient. Vous avez des pistes cyclables. Bah, par contre, quand on passait en Serbie, la Transalpine, il n'y a plus rien. Quand on passait en Roumanie, il n'y a plus rien. Et Bulgarie, c'était l'enfer, parce que vous aviez des petites routes, mais des gros, gros, gros camions à côté. Et quand on était en vélo, en plus j'ai les sacoches, c'était pas évident. Et j'ai laissé la voiture de côté pendant plus de 10 ans. Et c'est intéressant de voir comment on peut vivre sans voiture. J'ai un système d'autopartage, hein, et ça marche bien. Et vous avez une autre notion du temps quand vous laissez votre voiture de côté. Mes courses, je les fais aussi, j'ai besoin de manger. Mais je ne suis pas allé 15 jours d'avance, moi. Hein. J'ai mon vélo, je fais une journée ou deux journées. Et j'ai deux enfants, hein, ça marche très bien. J'ai amené mes enfants à l'école. Et au début, ça se prenait. Et finalement, il y avait un maître qui était très intéressé par le vélo. On s'est fait 3 jours de vélo avec les enfants. La fin de la classe, hein, bien sûr. Ils ont gardé un très très fort souvenir. Mais après, j'en ai fait d'autres, des voyages en vélo. Je voulais faire le tour de la Baltique. En faisant un peu le tour des écoliers, quoi.
On voit que la crise écologique, les discours à travers le voyage zéro carbone sont de plus en plus populaires.
Alexandre Skirati.
Une génération qui souhaite mettre en place une éthique de vie. Ça passe à travers des vacances sans carbone, des vacances au contact de la nature. Pour ça, le cyclotourisme offre un recours assez intéressant pour pouvoir découvrir des paysages, donner du sens à son voyage, sans produire de carbone, sans prendre l'avion, comme on a pu voir dans les années précédentes.
J'ai toujours été attirée par la vie nomade. Quand j'étais adolescente, je rêvais de partir voyager en van. Finalement, j'en ai jamais eu. J'ai trouvé mon mode de vie nomade avec le vélo. Ça permet vraiment d'être minimaliste. On emporte juste le nécessaire avec soi. Finalement, je fais des voyages assez courts, mais j'en fais beaucoup dans l'année et ça me plaît pas mal aussi. C'est un mode de voyage très simple, surtout maintenant avec le bikepacking. On peut prendre le vélo qu'on a déjà, même un vélo de route, mettre quelques sacoches et c'est parti.
Ça, c'est une carte d'aménageur.
Camille Thomé.
Vous avez l'avancement des différents itinéraires de niveau européen en bleu, national en orange ou régional en vert, et leur avancement. Ça, c'est le réseau de plus de 90 000 km à échelle du continent européen, avec toutes les Eurovélos, avec une dizaine d'itinéraires quand même qui sillonnent la France aussi.
Moi, c'est Juliette, j'ai 26 ans. J'ai appris un peu tardivement à faire du vélo. C'est mon grand-père qui m'a appris, mais j'ai enlever assez tard les petites roulettes.
Moi, c'est Pierre, j'ai 30 ans. C'est la première fois qu'on part juste tous les deux. Et on fait une petite balade sur 2 jours à vélo. Du coup, on a embarqué sur nos vélos, les sacoches, une petite tente pour dormir en chemin. Et puis, de quoi se faire un petit peu à manger, se poser un petit peu à droite, à gauche.
On est sur le Loing, on est vers Montigny-sur-Loing. À la base, on devait partir en Normandie. Mais finalement, on a dû changer à la dernière minute parce qu'il n'y avait pas de train qui circulait sur la ligne Paris-Rouen ce week-end.
Camille Thomé, je suis la directrice de Vélo et Territoire. On est le coordonnateur du réseau national cyclable, un réseau de collectivités, et on est basé à Lyon. En 1998, il y a eu l'adoption du premier schéma national des véloroutes et voies vertes qu'on disait à l'époque. Bon, c'était une carte de France avec des coups de règle pour aller de Paris au Mont-Saint-Michel ou de Gap à Sisteron, pour relier les villes entre elles, mais vraiment un schéma de principe. Ils avaient d'ailleurs procédé de même manière au niveau européen pour le réseau Eurovélo. Les collectivités se sont emparées ou pas de ce schéma national. Et bien souvent, les élus qui portaient les politiques cyclables, c'était des élus qui faisaient du vélo. Le vélo à l'époque était vraiment regardé par certains avec envie, volonté politique, mais c'était vraiment une poignée. Et surtout, en tout cas pour le réseau des départements de l'époque, comme un outil de développement de loisirs et de tourisme. Bon, les choses évoluent. Entre-temps, on s'est mis, nous, Vélo et Territoire, à suivre le schéma national des véloroutes. Pas juste comme un trait sur une carte. On l'a suivi avec un outil de système d'information géographique. On a interrogé l'intégralité des collectivités sur leur réalisation, ce qu'ils avaient mis en œuvre, installé, etc. Ce qui nous a permis d'établir, d'année en année, la progression du schéma national.
On arrive au terme de la première journée de route. On a bien roulé aujourd'hui. On est un peu fatigué. Un peu coup de soleil aussi.
Ouais, on est bien rouge.
Voilà, non, on a pris de belles couleurs.
On a la tête pleine de pollen et on est tous les deux allergiques, donc c'est super.
Mais on passe quand même un super moment. Non, on passe vraiment un bon moment. On a trouvé un endroit chouette pour dormir ce soir. On a déjà planté la tente.
Et là, du coup, on profite. On est au bord de la rivière et on va boire un petit apéritif bien mérité avant de rentrer se coucher.
Voilà, on profite des derniers rayons du soleil. C'est vraiment chouette.
En objectivant la réalisation du schéma national partout sur le territoire, on a réalisé que sur certains itinéraires, comme la Vélodyssée aujourd'hui, qui va de Roscoff à Hendaye, qui n'avait pas de nom à l'époque, était réalisé en fait à 80% et majoritairement en site propre, ça veut dire en piste cyclable ou en voie verte, séparée du trafic automobile. On a trouvé ça fantastique, on s'est dit mais c'est incroyable, les régions et les 10-12 départements traversés n'ont pas conscience de tout ce potentiel. On a réuni les collectivités et leurs organismes de tourisme, on leur a dit regardez, ça vous dirait de vous mettre ensemble, de travailler à une offre de services sur les 1250 km du parcours de l'itinéraire. Et ça a été chose faite par un travail de coordination d'acteurs que l'on désigne désormais comité d'itinéraire. Et aujourd'hui, cet itinéraire, la Vélodyssée, fait partie des top 3 itinéraires français les plus fréquentés. Alors c'est à la fois par des touristes en séjour, hein, parce que sur le front océanique, on sait bien qu'il y a quand même une forte fréquentation touristique, mais c'est aussi pour du loisir à la journée de gens qui habitent sur place, pour la mobilité du quotidien et pour des touristes itinérants à vélo qui sont assez dépensiers. On estime en France, toute économie confondue, que le tourisme à vélo en 2019 a rapporté 4,2 milliards d'euros de retombées économiques directes dans les territoires. Et là, c'est de la retombée économique locale, non délocalisable. Enfin, c'est de la bonne économie.
Bonjour.
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 Vous êtes sur un magnifique tandem, là. Est-ce que vous pouvez nous dire ce que vous faites comme voyage ?
La Vierona.
La Vierona, voilà. Alors, nous sommes partis de Seyssel et notre objectif, c'est de retrouver des amis qui sont sur Avignon et prolonger la promenade en direction de Marseille.
Il me semblait qu'au départ de Seyssel, c'était 700 et quelques kilomètres.
Bon, c'est pas votre premier coup d'essai, j'ai l'impression.
Non, il a quelques années, le tandem, et puis les cyclistes aussi. Donc on a la chance d'être retraités, donc on profite au maximum de ce temps béni.
Vous avez fait beaucoup de voyages comme ça à vélo, en France ou dans le monde ?
Bah, la France d'abord, parce que c'est la première destination touristique. Et puis à l'étranger, on a fait un petit peu d'Espagne, Portugal, Hollande, Belgique, beaucoup.
Et beaucoup la France, ouais. Beaucoup la France. Là, on triche, on n'a pas les sacoches.
On a laissé toutes nos affaires à l'hôtel, là, pour se promener dans Lyon avec les pistes cyclables. C'était quand même beaucoup plus adapté de s'alléger un petit peu, quoi.
Et depuis combien d'années vous faites du cyclotourisme ?
Là, nous avons commencé en 1998. Les vacances préférées, c'est tandem et toile de tente.
Et alors justement, puisque c'est depuis 1998, est-ce que vous trouvez qu'il y a eu une évolution depuis cette date ?
Très nette.
C'est très bien parce que autrefois il fallait qu'on trace notre circuit par nous-mêmes sur les cartes et on se retrouvait souvent sur des routes à grande circulation. Et maintenant on voit que les pistes cyclables se développent partout et ça c'est un vrai bonheur, quoi.
Oui, ouais. Un vrai plaisir.
Souvent on rencontre le développement de l'infrastructure et de la signalisation cohérente continue pour les cyclistes. On retrouve le thème des équipements pour que les cyclistes puissent s'arrêter, relier, se rabattre depuis une gare, etc. On retrouve au niveau du schéma national des véloroutes, pour ne parler que de celui-là, parce qu'évidemment il y a les ramifications régionales, départementales, locales. On a 58 itinéraires, ce qui représente un peu plus de 25 000 km à terme.
Et ce qu'on a apprécié aussi sur ce circuit, ce sont les campings municipaux, très bien équipés, avec des abris pour les cyclos.
Ça fait plaisir de vous voir sur un itinéraire depuis la Bretagne. Comme quoi, c'est pour des vrais gens.
Découvrir la France en vélo, c'est, pour nous, c'est le meilleur moyen. Donc, on apprend la géographie, le relief, donc on sait quand ça monte, on sait dans quel pays on vit. C'est à la vitesse du vélo, donc on a le temps d'apprécier les paysages.
Avec tous nos sens.
Ouais.
Comment vous appelez ?
Gisèle et Bernard.
Eh bien, bonne route.
Merci.
Merci.
C'est parti.
Oui, voilà.
Le grand retour du cyclotourisme, c'est 2020,
avec un record de fréquentation. Alors, est-ce que c'est le confinement qui a motivé les gens à ressortir les bicyclettes de la cave ?
On a vu dans les statistiques des principales véloroutes une augmentation fulgurante, voilà, de plusieurs dizaines de pourcents. C'est une pratique aujourd'hui qui se démocratise grandement. Pour moi, la principale différence avec les années précédentes, c'est que les voyageurs à vélo ne sont plus uniquement des passionnés. On voit beaucoup de voyageurs qui commencent à voyager à vélo sans forcément en avoir fait avant, sans forcément pratiquer au quotidien.
Aujourd'hui, on est passé par plein d'endroits trop beaux. On a commencé dans la forêt de Fontainebleau, dans des petits chemins, et c'était vraiment chouette de se retrouver plongé là juste en sortant de Paris. On a fait pas mal de bornes le long de la rivière.
Ça donne même presque l'impression qu'on est parti depuis plusieurs jours. On oublie vite, en fait. Et puis, c'est super facile à faire, en plus. C'est ça qui est assez incroyable.
Ouais.
On pourrait même partir tous les week-ends, en réalité.
Là, je monte au col du Lautaret.
Nathalie Bayon.
C'est une montée qui est longue, mais facile. Seulement à 4% en moyenne. Et elle reste quand même magnifique. Il y a une petite rivière là qui descend dans la vallée. Et j'ai la vue sur le col du Galibier qui est encore bien enneigé. Là, l'accès est encore fermé. Donc ça va être direction Grenoble directement. Là, je suis arrivée dans les coins que je connais bien. Donc j'ai fait la descente du col de Lautaret qui est vraiment sympa, bien roulante. On peut prendre de la vitesse. D'ailleurs, j'ai doublé plusieurs fois. Enfin, on s'est doublé avec un motard qui m'a encouragée à plusieurs reprises. Donc c'était assez sympa. Je suis arrivée chez moi après 660 km à peu près en 6 jours. Donc maintenant, ça va être place au repos pour me préparer pour ma tentative de record de la traversée d'Europe à vélo.
Ah, me voilà dans le nirvana de cyclotouriste.
Alessandra Villa.
Je roule sur une route tranquille, parmi les citronniers, les oliviers. À ma droite, je vois la longue ligne bleue de la mer qui brille. C'est trop bien. Les études sur le tourisme appelle cette expérience le flux. C'est-à-dire un moment dans lequel on est dans notre bulle. On se détache de la réalité tellement on est immergé dans l'activité qu'on est en train de faire. On ne pense à rien d'autre et on est dans un tunnel de bonheur. Après, il y a ce qu'on appelle les pics, qui sont des moments où on est surpris par l'émotion, où on se dit « waouh ». Par exemple, tout à l'heure, après un virage, je me suis retrouvée face à la mer. Et je me suis dit, waouh ! L'image de la mer qui surgit au bout de la route va rester longtemps gravée dans ma mémoire. Après, je crois que le cyclotourisme est fait autant de flux que de pics. Beaucoup de mes meilleurs souvenirs de voyage sont en fait des souvenirs de flux. Quelque chose qui, sur une piste de ski, dure quelques secondes, quelques minutes, si on a de la chance. À vélo, ça peut durer des heures, voire des jours, quand on traverse des paysages idylliques, magnifiques, comme par exemple en Patagonie. J'ai aussi un souvenir global, très fort, des paysages, de la route, des forêts, des glaciers et des lacs qui défilent à longueur de journée devant vous quand vous parcourez, par exemple, la carretera australe au Chili. C'est comme un goût qui vous reste dans la bouche et qui revient à chaque fois qu'on y repense.
Merci à Isabelle Best, Alexandre Skirati, Jacques Seret, Camille Thomé, Jean-Louis Fréchin, Jean-Luc Marchal, Vicky Carbonneau, Alessandra Villa, Nathalie Bayon, Pierre et Juliette, Bernard et Gisèle. Documentation musicale, Virginie Gresset. Attachée d'émission, Marie-Vonne Abolivier, Anaï Morales. Coordination, Perrine Carvan. Un documentaire de Julie Navarre. Mixage, Bruno Mourlan. Réalisation, Jean-Philippe Navarre.